Donc, bonjour à tous. Je suis Myriam Victor et je suis ravie de vous accueillir à cette webconférence à destination donc des élus de CSE, des responsables ressources humaines et des chefs d'entreprise sur la qualité de vie au travail. Et nous parlerons plus particulièrement des responsabilités et du rôle de l'employeur et du CSE sur ce sujet. Donc, quelques mots pour présenter Jury Travail à ceux qui ne nous connaîtraient pas. Jury Travail est le leader de l'information juridique en ligne. Donc, c'est d'abord beaucoup d'articles sur l'actualité juridique. Et c'est également un abonnement qui vous donne accès à toute une base documentaire juridique rédigée dans un langage clair. Vous avez également accès à de nombreux modèles de courrier, ce qui vous simplifie grandement la vie et vous fait gagner énormément de temps. Nous avons également une équipe de juristes basée à La Rochelle qui répondent à toutes vos questions par téléphone. Et Jury Travail, c'est également un réseau d'avocats auquel appartient Maître Bergeau, avocat en droit du travail au barreau de Paris, que nous avons le plaisir de retrouver aujourd'hui. Bonjour Maître et
Bonjour
bienvenue.
Myriam, merci pour votre invitation. Bonjour à toutes et tous.
Alors, vous en avez pris l'habitude, on fait parfois intervenir également des personnes externes à Jury Travail, expertes dans le thème que nous abordons. C'est le cas aujourd'hui et j'ai le plaisir de vous présenter donc Léopold de Denis, qui est cofondateur de Moodwork. Donc, bonjour Léopold, merci d'être parmi nous et puis je
Bonjour.
vous laisse présenter un petit peu Moodwork.
Merci beaucoup Myriam, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Léopold Denis, je suis cofondateur de Moodwork et également administrateur du LabRH. Donc c'est une association qui regroupe de nombreuses startups autour de l'innovation RH en France. Et Moodwork, c'est une société que j'ai co-créée il y a maintenant 4-5 ans avec des chercheurs en psychologie, en sciences comportementales, avec un objectif, c'est de rendre en fait chaque salarié en entreprise acteur de sa qualité de vie au travail, parce que quand on prend toutes les théories autour des sujets de prévention, on voit bien que la qualité de vie au travail, c'est une co-responsabilité entre l'organisation, certes, mais aussi chacun des salariés dans l'entreprise. Or, tout comme l'organisation a besoin d'outils pour agir sur la qualité de vie au travail, réaliser des diagnostics, être accompagné, etc., eh ben, le salarié, on part du principe que c'est la même chose chez Moodwork. Et donc, nous mettons à disposition aujourd'hui de plus de 100 000 salariés en France des outils qui vont leur permettre de s'auto-évaluer, donc de mieux comprendre leur qualité de vie au travail, d'agir sur celle-ci grâce à différents types de ressources comme des podcasts, des fiches de conseil, des programmes de e-learning, des conférences en ligne, etc. Et également, bien sûr, de façon un peu plus traditionnelle, mais qui est également très importante, on va mettre à leur disposition l'accès à des psychologues du travail, des psychologues cliniciens, des assistantes sociales et, si besoin, également, suivant les besoins de l'entreprise, des coachs, des sophrologues, etc. Donc aujourd'hui, on accompagne un petit peu tout type d'entreprise. Notre plus petite entreprise cliente, c'est 25 salariés. Et nos plus gros clients, ça peut être la BNP, EDF, Engie, LVMH, etc. Voilà, je suis ravi de participer aujourd'hui.
Oui, c'est une belle petite pépite Moodwork. J'avais eu le plaisir de vous croiser sur un salon de CSE. Nous accueillons également Katia Montero, qui est chargée RH du groupe My Best Pro. Donc, bonjour Katia et merci d'être parmi nous.
Bonjour Myriam, donc bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous et surtout merci à Jury Travail pour l'invitation.
Donc, comme à l'accoutumée, nous avions mis à votre disposition un formulaire en amont de cette webconférence afin de vous permettre de poser toutes vos questions. Nous les avons transmises à nos invités qui vont y répondre donc au cours de cette webconférence. Nous avons 45 minutes, nous allons essayer de nous y tenir, mais vos questions ont été très nombreuses. Si vous souhaitez poser des questions pendant la webconférence, une collègue juriste, Alexandra, est chargée de vous aiguiller vers des articles ou des dossiers qui pourraient répondre à votre problématique. Vous pouvez y accéder via la barre de configuration qui doit apparaître soit en bas de votre écran, soit sur le côté. Et c'est un bouton avec une petite main. Donc, si vous avez besoin de conseils juridiques plus précis, je vous invite à contacter Maître Bergeau, dont vous avez les coordonnées à l'écran. De même, si vous avez vraiment une problématique QVT au sein de votre entreprise, n'hésitez pas à contacter Léopold de Denis. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Donc, nous avons vraiment reçu beaucoup de questions et nous vous en remercions. Elles ont été rassemblées en trois grandes thématiques. Donc, le cadre légal qui nous sera exposé par Maître Bergeau, la mise en place d'un dispositif QVT et l'efficacité de ce dispositif dans l'entreprise. Et nous terminerons en abordant un petit peu la QVT et la crise sanitaire, parce que forcément, la crise sanitaire a eu également des impacts dessus. Donc, nous allons commencer par un petit tour de table avec la définition de la QVT. Donc, je vais demander à nos trois intervenants de répondre en quelques phrases et de nous donner chacun leur définition de la QVT. Et je vous invite, vous également, les internautes, à répondre à un petit sondage que ma collègue, enfin, ma collègue est en train de vous envoyer le lien par chat actuellement. Et nous regarderons donc vos réponses juste après les réponses de nos trois intervenants. Et donc voilà, on commence honneur aux dames par Katia. Pour vous, Katia, c'est quoi la QVT?
Alors, pour moi, Myriam, je dirais que la QVT, c'est tout simplement un facteur clé de succès de l'entreprise. Ce que j'entends par là, donc, c'est que bah, une entreprise est un organisme vivant, donc de tous ses membres, et sa santé révèle d'un équilibre complexe entre sa santé financière et le sens économique, ainsi que l'humanité. Et donc, nous, chez nous, on est convaincu qu'une entreprise ne peut pas réussir sans investir significativement sur cet enjeu qui est la QVT. Et donc pour travailler sur cette QVT, donc c'est mettre en place ce qu'il faut pour développer le collectif et suivre les signaux faibles de sa santé pour pouvoir réagir. Et donc permettre aux équipes de se développer et expérimenter leurs talents. Et qui se sentent, ils se donnent les moyens et leur envie, et le tout au service des enjeux de l'entreprise. Voilà, c'est ma définition.
Merci beaucoup, Katia. Je vous cède la parole, Léopold.
Ouais. Merci. Alors nous, on a une définition qu'on a un peu travaillée chez Moodwork et donc on réutilise à chaque fois parce que c'est vrai que cette question, elle revient un peu tout le temps et tout le monde avec des réponses qui peuvent varier, qui sont toujours bonnes à mon goût parce que la qualité de vie au travail, à mon goût, quand on la prend au niveau individuel, c'est avant tout une perception. Donc, nous, chez Moodwork, notre définition, c'est que la qualité de vie au travail, c'est une démarche qui est collective et individuelle et qui vise à améliorer le bien-être de chacun tout en améliorant la performance globale. Donc en fait, dans cette définition, il y a quelque chose qui sont importantes et que je tiens à souligner. Le premier aspect, c'est celui de démarche. La qualité de vie au travail, c'est quelque chose qui n'est pas figé dans le temps, qui doit être toujours en évolution, perpétuellement remis en question, etc. Donc cet aspect de démarche, il est très important. On ne fait pas de la QVT pendant un mois et puis après on arrête. La QVT, ça fait partie de la vie de l'entreprise et c'est un continuum. La deuxième chose, c'est l'aspect collectif individuel. Comme je l'ai expliqué très rapidement tout à l'heure, toutes les théories qui sont liées au sujet de qualité de vie au travail montrent qu'il existe des facteurs organisationnels de qualité de vie au travail. Donc c'est le collectif, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que l'organisation fait en sorte pour que les gens travaillent bien ensemble. Et le deuxième aspect, c'est individuel. Comment est-ce que moi, en tant qu'individu, je fais pour améliorer ma qualité de vie au travail, pour m'insérer au mieux dans l'entreprise, etc. Et la dernière chose qui est importante, c'est le bien-être lié à la performance. Donc ça, c'est toutes les définitions qui proviennent de l'ANI. L'objectif final de la qualité de vie au travail, ce n'est pas que le bien-être, c'est comment est-ce qu'on fait pour concilier la performance et le bien-être des salariés.
Merci beaucoup. Et enfin, à vous, maître.
Merci Myriam. Alors, de mon point de vue d'avocat, évidemment, la QVC est une notion juridique qui est inscrite notamment à l'article L2242-1 du Code du travail. Que nous dit le texte? Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les 4 ans une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail. Alors, cet article est le premier article chronologiquement dans le Code du travail qui évoque la QVT, mais ce n'est pas le seul, il en existe d'autres, nous le verrons plus tard. Assez bref, la QVT a été instaurée légalement donc, par une loi du 5 mars 2014 qui est inspirée par un accord national interprofessionnel de 2013. Cette loi a permis aux partenaires sociaux dans l'entreprise d'évoquer en fait la QVT sous la forme d'un dispositif unique regroupant différentes négociations obligatoires, égalité professionnelle, durée effective, organisation du temps de travail, mobilité professionnelle. Et le dispositif de la QVT a pris de l'autonomie plus tard. Voilà pour l'aspect juridique. Je dirais aussi, pour se détacher un petit peu de cet aspect juridique, que la QVT, pour moi, rejoint la notion d'image employeur. C'est en fait quel est le degré d'attraction d'une entreprise finalement vis-à-vis de ses salariés.
Très bien, merci beaucoup. Alors, on va jeter un coup d'œil au sondage. Donc, j'avais proposé quatre définitions qu'on retrouve assez communément sur Internet de la QVT. La définition qui a reçu le plus de suffrages et de très loin, puisque c'est à 70,3%, c'est celle qui englobe l'ambiance, la culture de l'entreprise, l'intérêt du travail, les conditions de travail, la responsabilisation des salariés et la reconnaissance et la valorisation du travail. Effectivement, cette notion de valorisation du travail, en tout cas, dans notre entreprise, je sais que c'est une demande assez récurrente et forte des salariés. Alors, on a deux remarques d'internautes. Donc, il y a Valérie qui nous dit qu'en tant que membre de CSSCT, elle ne se retrouve dans aucune proposition du sondage. Je suis désolée. Et effectivement, Catherine qui nous parle aussi de la bienveillance et de l'entraide entre les équipes. Et là, on rejoint un petit peu ce que disait Léopold sur le fait que les salariés sont eux aussi acteurs de leur propre QVT. Nous allons aborder maintenant la première partie avec le cadre légal autour de la QVT. Maître, pouvez-vous nous rappeler quelles sont les obligations légales de l'employeur à ce sujet et nous préciser si les obligations de l'employeur sont les mêmes en fonction de la taille des entreprises?
Oui, alors le thème de la QVT concerne les entreprises qui sont légalement soumises à l'obligation de négocier, c'est-à-dire les entreprises qui comportent un ou plusieurs syndicats représentatifs. Petit rappel sur le sujet, sont représentatifs les syndicats qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE. Donc sont visées les entreprises de 11 salariés au moins. Et dans ces entreprises de 11 salariés au moins, il faut que le syndicat ait désigné comme délégué syndical un membre titulaire du CSE. Donc, dans les entreprises qui sont soumises à la QVT, donc les entreprises de 11 salariés et puis les autres hein, qui comportent un effectif supérieur, deux cas de figure se présentent. Premièrement, les partenaires sociaux peuvent conclure un accord d'adaptation, qui est un accord sur le calendrier, la périodicité et les thèmes de négociation. Donc, dans ce cas, le thème de la QVT est abordé selon la périodicité qui est retenue par l'accord et au minimum une fois tous les 4 ans. Et quand l'entreprise n'a pas conclu d'accord d'adaptation, dans ce cas, la QVT doit faire l'objet d'une négociation sur une base annuelle. Petite précision, négocier sur la QVT ne veut pas dire parvenir à un accord. L'employeur est tenu à négocier de manière loyale. mais les négociations peuvent se conclure par un procès-verbal de désaccord. J'ajoute qu'au-delà donc de cette obligation à négocier, les accords de branche, évidemment, se sont saisis du thème de la QVT. Je pense par exemple à la convention collective des sociétés d'assurance, du pétrole, de la banque, du bâtiment, également les accords nationaux du bâtiment. Et quand l'accord de branche est étendu, dans ce cas, la QVT concerne toutes les entreprises sans distinction, dès lors qu'elles relèvent du secteur d'activité de la convention collective.
Très bien, merci beaucoup, maître. Et donc, comment intervient le CSE? Et je rebondis en même temps un petit peu sur la réponse que vous avez formulée et aussi par rapport à des réactions de nos internautes qui disent, du coup, pas de syndicat, pas de QVT. Le CSE n'est-il pas apte à négocier aussi sur ce sujet en l'absence de syndicat? Et plus généralement, donc, comment intervient le CSE sur le thème de la QVT, doit-il être consulté sur le sujet, à quelles occasions et est-ce qu'il peut imposer une démarche QVT dans l'entreprise et on nous demande également de préciser le rôle de la CSSCT. Donc là, ça concerne plus les plus gros CSE qui ont des commissions sur ce sujet.
Oui, alors le CSE a vocation à intervenir à plusieurs niveaux en matière de QVT. Vous l'avez rappelé, Myriam, par principe, le CSE n'est pas signataire des accords QVT, puisque le monopole de la signature des accords collectifs relève de la prérogative des délégués syndicaux. Toutefois, dans le cadre de ses attributions générales, bien évidemment, le CSE est intéressé par la QVT. Je rappelle l'article L2312-8 du Code du travail. Le CSE doit être informé et consulté sur les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle. Donc, il est évident que la QVT répond à cette exigence, ce qui signifie que dès lors que l'employeur a un projet d'envergure collective concernant la QVT, les conditions de travail, il doit évidemment informer et consulter le CSE. Par ailleurs, il est très fréquent dans les accords QVT signés avec les syndicats que le CSE se voit confier un rôle notamment de suivi des accords. Je vais vous donner l'exemple d'un accord sur lequel j'ai travaillé. Les partenaires sociaux, en fait, donc l'employeur et les syndicats, s'étaient mis d'accord pour que les collaborateurs aient un entretien professionnel chaque année portant sur l'environnement professionnel, sur les motivations et les projets donc, de chaque collaborateur. Ensuite, toutes ces données étaient recueillies et formaient ce que les partenaires sociaux ont appelé un baromètre du climat social qui faisait l'objet d'un suivi tous les 6 mois par le CSE. Donc, le CSE ne peut pas imposer une démarche QVT, mais il y contribue évidemment dans de larges proportions. Vous parliez, Myriam, de la CSSCT, donc dans les entreprises de 300 salariés. Je rappelle que cette commission est chargée par délégation du CSE des attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Donc, bien évidemment, elle a un rôle primordial dans la QVT, bien sûr.
Très bien, merci beaucoup, maître. Donc, vous avez parlé des accords sur la QVT. Vous nous avez déjà précisé dans quel type d'entreprise on pouvait négocier ce type d'accord, mais que doit contenir cet accord? Sur quoi négocier?
Mais alors, un accord QVT peut théoriquement être négocié dans toutes les entreprises sans condition, puisqu'un accord d'entreprise peut être signé même en l'absence de délégué syndical, par un salarié mandaté par exemple. Alors, les sujets qui sont généralement traités, je vais parler un peu de la théorie, puis un peu plus de la pratique ensuite. Alors, la théorie, c'est les conditions de travail, l'environnement, les relations de travail, la conciliation des temps de vie privée et professionnelle, les conditions d'accès à la mobilité, la reconnaissance du travail, le climat social, l'égalité professionnelle, etc. Ensuite, pour parler plus concrètement de clauses des accords QVT, on a par exemple certains accords qui prévoient un parcours d'intégration des nouveaux collaborateurs sur 1 an ou 2 ans, avec différents entretiens formels ou informels avec des collègues, des responsables hiérarchiques. On a des accords qui déterminent des plans d'action en matière de QVT. On a des accords qui forment à la gestion des incivilités, par exemple pour les salariés qui sont en lien avec le public. On a des accords QVT, je rejoins un petit peu Léopold sur le sujet, qui prévoit des dispositifs d'écoute et de soutien psychologique des salariés. Donc, je dirais que l'imagination des partenaires sociaux, finalement, elle est illimitée. Les accords QVT sont laissés à la libre appréciation des syndicats de l'employeur parce que le code du travail ne nous donne pas d'indication sur ce que contiennent ces accords.
Très bien, merci beaucoup, maître. Donc vous nous avez parlé tout à l'heure du premier accord national interprofessionnel sur la QVT. Récemment, un ANI a également été signé sur ce sujet, presque en même temps que celui sur le télétravail. Et malheureusement, la presse n'a retenu que celui du télétravail et n'a communiqué que sur celui-là. Donc, pouvez-vous nous préciser ce que contient cet ANI sur la QVT? Et on y apprend notamment que le nouvel acronyme à utiliser, parce qu'en France, on aime les acronymes et on aime les modifier souvent, normalement, on ne doit plus parler de QVT, mais de QVCT pour qualité de vie et conditions de travail. Donc, quel changement apporte cet accord, maître?
Oui, alors les changements sont principalement de l'ordre de 4. D'ailleurs, ils ne concernent pas simplement la QVCT. Le principal, c'est le renforcement de la prévention. Donc, il est prévu que le document unique d'évaluation des risques professionnels soit vraiment le socle de la prévention en entreprise. Et le document fait l'objet d'une meilleure traçabilité dans le temps. Par ailleurs, à l'image un peu de la portabilité des droits et formations de la mutuelle et de la prévoyance, il est prévu la mise en place d'un passeport formation qui suivrait le salarié au-delà de l'entreprise, donc tout au long de sa carrière professionnelle. Également, cet ANI vise à prévenir la désinsertion professionnelle et assurer le maintien dans l'emploi. Par exemple, en fait, il invite l'entreprise, les syndicats et le CSE à être très vigilants sur les premiers signes qui pourraient à terme conduire à l'inaptitude d'un salarié, donc afin de prévenir cette inaptitude. Concernant donc la QVCT, l'ANI indique que cette démarche peut prendre de multiples formes, dialogue direct, actif et constructif dans les TPE qui n'ont pas de représentation du personnel. Un accord d'entreprise ou un accord de branche. Et l'accord de branche, évidemment, aura toute sa place dans les entreprises qui sont dépourvues de représentation du personnel.
Merci beaucoup,
Je vous en
maître.
prie.
Donc maintenant que nous avons le cadre légal à l'esprit, on va rentrer dans l'aspect un peu plus pratique de la mise en place d'une démarche QVT. Petite curiosité de ma part, et donc une première question pour vous, Léopold. Qui vous contacte en premier pour la mise en place d'une démarche QVT? Ce sont plutôt des employeurs, des RH, des IRP?
Alors déjà, c'est une très bonne question. Et puis, ce qui est intéressant de constater dans votre question, c'est qui vous contacte. Je trouve qu'en matière de qualité de vie au travail, on a beaucoup plus des entreprises qui ont des convictions, qui sont motrices et qui contactent des prestataires en termes de qualité de vie au travail, beaucoup plus que des prestataires qui vont démarcher des entreprises pour leur vendre leurs solutions. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on constate chez Moodwork, qu'on a d'ailleurs arrêté toute démarche commerciale parce que ça ne fonctionne pas. Ce sont les entreprises qui en ont besoin et qui viennent nous voir. Ensuite, les personnes qui viennent nous voir pour répondre à votre question. Aujourd'hui, nous, c'est 70% des RH, donc des DRH principalement et des responsables ressources humaines. Ensuite, on a un petit peu, avec le développement de ce métier, d'ailleurs, chez Moodwork, qu'on a fait une enquête sur le métier de responsable qualité de vie au travail. Nous, c'est donc je dirais, une personne sur 10 qui rentre en contact avec nous sont des responsables SQVT plutôt, santé, qualité de vie au travail. Et une dernière chose intéressante, c'est en effet, vous parliez de chef d'entreprise, on en avait beaucoup moins auparavant et depuis la crise sanitaire, on en a beaucoup plus. Alors moi, mon constat, hein, je n'ai pas envoyé de questionnaire pour savoir, mais moi, mon analyse de la chose serait de dire que premièrement, du fait de la pandémie, les problèmes de qualité de vie au travail sont remontés jusqu'aux oreilles des DG qui prennent beaucoup plus à cœur cette thématique. Et la deuxième chose, c'est que je pense que on a une démocratisation, c'est-à-dire les sujets de qualité de vie au travail s'étendent beaucoup plus vers les PME aujourd'hui, Auparavant, c'était un petit peu réservé aux grands groupes du CAC 40, etc. Et vu qu'on s'adresse plus à des PME et que ce sont quand même des sujets stratégiques, la qualité de vie au travail, on se retrouve en effet avec pas mal de chefs d'entreprise qui prennent contact avec nous. Et enfin, dernière chose sur les représentants du personnel, ça arrive, c'est beaucoup plus rare en effet que ce soit eux qui prennent contact directement avec nous. Par contre, ils sont toujours là dans le processus de décision de l'entreprise, au niveau de la mise en place d'un plan d'action qualité de vie au travail. Ouais.
Très bien, merci. Et donc, étant élue moi-même, amie élue, n'hésitez pas à prendre ce sujet en main et à être acteur vraiment au niveau de la QVT dans vos entreprises. Alors, une petite question pour Katia maintenant. Et chez MyBest Pro, qu'est-ce qui a été mis en place au niveau de la QVT?
Alors, du coup, pour parler de MyBest Pro, donc chez nous, le bien-être de nos collaborateurs est du coup un enjeu clé. D'une part parce que le collaborateur, plus il est engagé dans son quotidien, plus il est efficace dans ses relations. Et d'autre part parce que, comme souvent on le dit, soyez avec vos collaborateurs comme vous voudriez qu'ils soient avec vos clients. Donc, autant appliquer ces choses-là. Donc, pour nous, travailler sur la QVT passe par différents types d'actions qui vont être proactives et réactives. Tout d'abord, on va les cadrer, donc comme l'a dit Maître Berger tout à l'heure, via des accords. Donc, des accords temps de travail, accords télétravail, accords égalité homme-femme. Et par exemple aussi le plan de formation. Donc, c'est des accords qui vont créer des référentiels. Ils vont nous permettre d'accompagner les salariés et les managers. Et quand on parle de QVT chez nous, on part dès le recrutement. Donc, autant. On va dire que pendant le recrutement, on va détecter le candidat idéal, hein, bien sûr pour la société, mais on va pas le noter uniquement sur ses compétences techniques, mais également sur son sa savoir-être, qui est très important pour nous, parce que là, on parle d'une greffe, et donc quand on parle d'une greffe, il faut que l'organe coche les cases techniques, donc des fonctions que la personne occupera, mais aussi il faut que l'organe soit compatible. Donc sinon, du coup, la greffe, elle est rejetée. Et donc, au-delà de la fiche de poste de la personne, on va s'attacher à identifier le candidat idéal et lui permettre de trouver sa place dans l'équipe, mais aussi sa place dans l'entreprise. Donc c'est un moment clé. Là, on parle de l'onboarding. Donc un moment clé pour le salarié, mais aussi pour l'entreprise. Et donc pendant cette période-là, donc les premiers mois, enfin les premiers jours, voire les premiers mois, vont être clés autant pour le salarié que pour l'entreprise. Donc nous, on va prendre le temps de soutirer le maximum d'éléments pendant ces premiers mois afin de mettre les actions en place pour que la greffe prenne. Et aussi, le travail va être fait sur le terrain. Donc, c'est-à-dire que nous, on va être une organisation à plat. Donc, les choses bougent tellement vite chez nous qu'on n'a pas le temps de faire une organisation à étage où on va remonter les informations, puis redescendre pour la prise de décision, etc. Non, en fait, chacun chez nous va être acteur, va être amené à prendre des décisions et donc il doit avoir les moyens nécessaires pour prendre ces décisions. Et cela, du coup, passe par un objectif commun. Donc, nous, chez nous, on parle de take a chance plutôt que de prendre un risque. Donc, voilà, on va pousser le salarié à prendre des décisions par lui-même et à prendre sa chance, de prendre la bonne décision. On va également avoir un suivi qui va être plus régulier au niveau de la gestion des échecs, donc qui est très important parce que dans cette notion d'échec de l'individu et de l'équipe, on a le bien-être du collaborateur qui est en jeu. Donc, on ne va pas seulement avoir une reconnaissance au niveau des succès, mais aussi l'accompagner dans ses échecs et du coup, pour l'apprendre. Ce qui va lui permettre d'agrandir et excusez-moi, ce qui va lui permettre d'apprendre et de grandir du coup grâce à ses échecs qu'il a pu avoir précédemment.
Merci beaucoup, Katia. Léopold, pour vous, quels sont les sujets primordiaux à aborder dans une démarche d'amélioration de la QVT au sein d'une organisation?
Alors déjà, je tiens à dire bravo à Katia parce que j'aime beaucoup l'approche, comme vous pouvez le savoir chez Moodwork, l'approche centrée sur l'individu. Et je trouve que la démarche QVT chez My Best Pro, ça a l'air très centrée sur le besoin individuel. Et je pense que c'est surtout ça la réponse à laquelle on cherche à répondre en matière de qualité de vie au travail au XXIe siècle. Pour les sujets primordiaux à aborder dans une démarche d'amélioration de la QVT, je vais vous répondre par une non-réponse, en fait, Myriam, parce que pour moi, il n'y a pas de réponse générique, surtout pas en qualité de vie au travail. Se dire, il y a quelqu'un qui m'a donné le conseil de poser telle question, en fait, il va faire référence à son expérience personnelle en tant qu'entreprise. Je pense que ce qui est très important, c'est que chaque entreprise, de savoir que chaque entreprise a des besoins qui lui sont propres et qui découlent de nombreux facteurs, sa culture d'entreprise, la typologie de métier, quelle est son histoire, etc., etc. Et que, à partir de ça, il est extrêmement important de comprendre quels sont les besoins des salariés. Et c'est de ne pas partir avec un a priori, de se dire, moi, je pense qu'il y a un besoin sur le télétravail, donc on va poser des questions sur le télétravail. Moi, je pense qu'il y a un besoin sur les relations entre collègues, donc je vais poser des questions là-dessus. Parce que bien souvent, on va essayer d'objectiver en partant de quelque chose de subjectif, à savoir sa perception personnelle de la qualité de vie au travail. Donc pour moi, ce qui est vraiment important, c'est déjà, dans toute démarche qualité de vie au travail, de comprendre exactement quels sont les besoins des salariés. D'ailleurs, on a réalisé une étude chez Moodwork en partenariat avec le Lab RH et l'école de commerce, l'EM Lyon. Et en fait, on a montré dans cette étude que lorsqu'on inclut les salariés dans sa démarche de qualité de vie au travail, ça va permettre de mieux appréhender les besoins personnels et les chances de voir sa politique qualité de vie au travail réussir s'augmentent de 18% grâce à ça. Donc pour moi,
Oui.
c'est vraiment la première étape de se dire déjà quelle est la situation, qu'est-ce qu'on cherche à améliorer et de ne pas partir avec des a priori qui peuvent être très individuels, de dire je pense que la qualité de vie au travail, c'est ça. Donc, ce qui est important, donc dans un premier temps, c'est de comprendre les besoins de ses collaborateurs et donc de s'appuyer potentiellement à une méthodologie. Alors, j'entendais tout à l'heure parler des thématiques de prévention par Maître Bergeau. Je pense que c'est important et primordial pour une entreprise qui se lance dans une démarche de qualité de vie au travail de se référer aux préventions primaires, secondaires, tertiaires. À savoir, est-ce que je suis en pompier, est-ce que je suis en formation des salariés, est-ce que je modifie l'organisation, et de savoir un petit peu où j'en suis, et est-ce que j'agis de façon intelligente sur ces trois grandes étapes de la prévention. Et également, à mon goût, bien sûr, et ça rejoint un peu ce que Katia disait, au niveau organisationnel, qu'est-ce que l'organisation fait pour être moteur en matière de prévention, et qu'est-ce que je mets à disposition du salarié lui-même pour qu'il soit moteur en matière de prévention. Et là, je prends peut-être un petit peu d'avance sur la conférence d'aujourd'hui, mais la qualité, le télétravail aujourd'hui, ça a décalé, à mon goût, hein, c'est une perception que j'ai, mais je pense qu'il se vérifie dans beaucoup de structures, a décalé la responsabilité de la qualité de vie au travail, qui était beaucoup plus sur l'organisation, à un petit peu plus vers le salarié. L'organisation aujourd'hui, elle n'est plus maître dans beaucoup de situations de l'environnement de travail dans lequel je suis. Mettre en place des démarches de prévention par des moments informels, c'est beaucoup plus compliqué, etc. Donc le salarié, il se retrouve avec beaucoup plus de responsabilités sur le dos, et c'est pour ça qu'il faut l'outiller et lui permettre, comme Katia l'expliquait, d'être acteur, d'être moteur dans sa démarche de qualité de vie au travail.
Parfait, merci beaucoup Léopold. Et donc, comment élaborer un diagnostic, puisque vous disiez qu'il fallait vraiment partir de là. Donc, parmi les questions reçues, on a également eu, est-ce qu'il existe des questionnaires types? Donc,
Bien
je suis
sûr.
sûre, au vu de votre précédente réponse, que vous allez me dire, non, il n'y a pas de questionnaire type, il faut s'adapter à l'entreprise, mais je vous laisse répondre.
Alors, si, il y a des questionnaires types, mais qui ont été créés justement pour éviter ce type de biais. Donc, déjà, une chose importante, c'est que mettre en place un diagnostic de qualité de vie au travail, ça fait partie d'une démarche globale de qualité de vie au travail, mais ce n'est pas une action pour la qualité de vie au travail. Ce n'est pas parce que vous mettez en place un diagnostic, un questionnaire, que vous améliorez la qualité de vie au travail. C'est ce qui va vous permettre de mettre en place des actions, mais ce n'est pas ce qui va améliorer la situation. Donc, au niveau des référentiels que les entreprises peuvent utiliser, on en retrouve assez facilement, hein, sur le site de l'ANACT, sur le site de l'INRS. On trouve des référentiels qui vont permettre, et non, en plus, en rentrant dans le cadre légal, de poser les bonnes questions à ses salariés pour savoir exactement ce qui a un impact positif sur leur qualité de vie au travail et ce qui a un impact négatif sur leur qualité de vie au travail. Donc ça, c'est un premier aspect, on va dire, beaucoup plus quantitatif, qui est primordial pour mettre en place un diagnostic qualité de vie au travail, que moi, je pense qu'il est très intéressant de le compléter avec du qualitatif. Donc soit des entretiens individuels, soit des groupes de travail, etc. Parce que ça permet de faire ressortir certains aspects qu'un questionnaire ne permet pas toujours de faire ressortir. Donc pour moi, c'est vraiment cette coaction du quali avec du quanti qui va permettre d'avoir vraiment un diagnostic qui va permettre de partir sur un plan d'action intéressant. Ensuite, pour revenir à ce que je disais juste avant et qui est pour moi très important, et je vois certains RH, certaines entreprises qui se lancent dans une démarche de qualité de vie au travail en disant bah, OK, on va faire un diagnostic QVT. Je suis complètement d'accord avec ça, c'est ce qu'il faut faire. Mais quand on part sur son diagnostic QVT, il faut surtout penser au préalable à évaluer ce qu'on va être en capacité de faire par la suite. Parce que si on fait un diagnostic qualité de vie au travail, qu'on a les résultats et puis qu'on remarque qu'en fait, bah, on n'a pas le soutien de sa direction, on n'a pas le soutien de ses IRP, on n'a pas le soutien de son CSE, de ses syndicats, etc., et ben on ne va pas aller très loin. Et le grand risque qu'on a à cause de ça, c'est d'ailleurs, bah, les salariés, eux, ils ont reçu un questionnaire. On leur a posé des questions, on leur a demandé ce qu'ils voulaient, et au final, il ne se passe rien. Ça, c'est un énorme risque pour l'entreprise, parce que ça va créer plus de frustration chez le salarié que générer la qualité de vie au travail. Donc, je pense que avant de se lancer dans un vrai diagnostic, il faut voir comment est-ce qu'on est armé pour mettre en place un plan d'action derrière. Est-ce qu'on a du budget? Est-ce qu'on a du temps pour mettre en place quelque chose? Est-ce qu'on a en soutien notre direction, nos RH, etc., etc. Donc, ça, pour moi, c'est la base de est-ce que je mets en place un diagnostic? Voilà, pour moi, ça, c'est mes grands conseils sur le diagnostic. Prendre des référentiels de qualité déjà existants, il y en a qui sont en libre service, mais aussi et surtout savoir si oui ou non je suis en capacité de mettre en place un plan d'action de qualité derrière.
Effectivement. Merci beaucoup. Alors, une autre question qui nous avait été envoyée, c'est comment faire en sorte que la QVT ne soit pas traitée comme un sujet gadget? On sent justement quelqu'un qui n'est pas forcément suivi par sa direction, sur le sujet. Quel conseil pourriez-vous lui donner?
Alors, comment faire pour ne pas partir sur une démarche QVT qui soit gadget? Bah, en fait, pour moi, ça découle vraiment de la qualité du diagnostic qu'on va faire. Si on a un diagnostic vraiment de qualité qui va permettre de faire ressortir des sujets sur l'équilibre vie pro-vie perso, sur la relation au travail, etc., on va aller directement vers quelque chose d'un peu plus concret que l'éternel baby-foot. Après, j'ai envie de dire, pour moi, il y a assez peu, tant que la politique qualité de vie au travail qui est mise en place répond à un réel besoin, il n'y a pas de gadget. On voit toujours cet exemple du baby-foot, et je vais vous donner un contre-exemple pour le baby-foot. Si dans votre diagnostic de qualité de vie au travail, vous voyez que un des besoins de vos salariés, c'est de créer du lien les uns avec les autres, avec des activités entre collègues. Et ben, pourquoi pas mettre en place un baby-foot, j'ai envie de dire. Par contre, si le besoin de votre salarié, il est tout autre, il n'a rien à voir avec le baby-foot, bah dire que le résultat du diagnostic et le plan d'action, c'est de mettre en baby-foot, bah en effet, ça n'a aucun sens et ça ne sert à rien. Donc pour moi, vraiment, le moyen de mettre en place une politique qualité du travail qui ne soit pas gadget, c'est de le faire sérieusement et d'utiliser des référentiels qui soient qualitatifs et derrière, d'avoir des budgets qui me permettent de mettre en place des outils, un accompagnement qui soit de qualité.
Très bien. Alors, le temps file à toute allure. Il nous reste 5 minutes.
Oui,
Je pense
désolé.
qu'on débordera un petit peu. Je préfère prévenir nos internautes parce qu'il nous reste encore quelques questions. Question sur l'efficacité du dispositif. Comment s'assurer de son efficacité et donc, pour reprendre un thème cher à Moodwork, les managers sont, enfin, le rôle des managers est vraiment essentiel là-dedans, mais le rôle des salariés aussi, ils sont un peu maîtres de leur qualité de vie également.
Exactement.
Pouvez-vous nous en dire plus?
Alors, au niveau de l'efficacité, premièrement, d'un dispositif de qualité de vie au travail, c'est la grande question. J'ai envie de vous dire, ce qui est très compliqué en matière de qualité de vie au travail, c'est de faire en mathématiques ce qu'on appelle du taux de choses égales par ailleurs. Imaginons dans votre société, vous avez décidé de mettre en place des nouveaux bureaux, des bureaux qui montent et qui descendent. Vous faites un diagnostic de qualité de vie au travail avant, vous en faites un après. Qu'est-ce qui vous assure que toutes les évolutions sont dues à ça? Rien. Donc, ce qui est compliqué, c'est d'isoler un phénomène que vous avez décidé de mettre en place dans votre société pour améliorer la qualité de vie au travail et de dire, bah, c'est grâce à ça qu'il y a de l'amélioration ou c'est à cause de ça qu'il y a une détérioration. Donc, en fait, et ça rejoint un petit peu la définition que j'ai donnée au début de la qualité de vie au travail, c'est que la qualité de vie au travail, c'est une démarche. C'est une démarche de long terme et on ne va pas évaluer chaque dispositif individuellement, mais on va évaluer les dispositifs de façon globale. Et par exemple, et les entreprises le font très bien dans beaucoup de structures depuis pas mal d'années, c'est de se dire, bah nous, on fait un questionnaire tous les ans ou tous les 2 ans, et ça nous permet de réévaluer nos actions et de se relancer dans des projets, etc. Et en fait, c'est ça pour moi le vrai moyen d'évaluer l'efficacité de ces dispositifs, mais ces dispositifs de façon globale et pas de façon ciblée et individuelle. Donc ça, c'est au niveau de l'évaluation des dispositifs de façon globale. Ensuite, il y a l'évaluation de la qualité de vie au travail au niveau individuel. Comme vous le savez, chez Moodwork, nous, notre spécialité, c'est comment est-ce qu'on fait pour rendre le salarié acteur de sa qualité de vie au travail. Et tout comme l'organisation a besoin d'évaluer ses dispositifs, le salarié a besoin d'évaluer ses dispositifs. Et ça, c'est quelque chose que je martèle dans les entreprises, que je martèle dans les médias, etc., parce que c'est extrêmement important. Les salariés aujourd'hui, on est tous, on va dire, abasourdis par la quantité d'informations qu'on voit dans les médias sur le burn-out, le bore-out, le brown-out, le mal-être en entreprise, etc. D'accord, mais c'est très intéressant. Mais comment est-ce que je fais pour que moi, en tant qu'individu, j'arrive à m'évaluer vis-à-vis de ces concepts? C'est très important de pouvoir s'auto-évaluer parce que sinon, on va se dire à tort et à travers, je le suis, je ne le suis pas, etc. Et donc ça, c'est très important à mon goût et il faut permettre, à mon avis, aux salariés, soit grâce à des échanges avec des spécialistes, soit grâce à des questionnaires qui sont validés scientifiquement, mais de lui permettre, avec une certaine récurrence et en fonction de son envie, de s'auto-évaluer, de faire le point sur les dispositifs qu'il met lui-même en place pour sa qualité de vie au travail.
Très bien, merci beaucoup. Effectivement, ça me paraît très important. Passons juste donc rapidement à notre dernière partie sur la QVT et la crise sanitaire. Comment s'assurer de la QVT alors que tous les salariés sont en télétravail? Et je pose donc tout d'abord la question à Katia pour savoir ce qu'elle a mis en place dans son entreprise et ensuite Léopold de Denis complétera avec de précieux conseils, je n'en doute pas.
Merci Myriam. Alors, ce que nous avons mis en place chez MyBestPro, donc nous avions déjà des choses qui étaient mises en place avant la crise. Donc, il y avait des petits déjeuners, des goûters, des after-work, des moments pour lesquels donc on travaille sur le vivre ensemble. Et donc, avec la crise, on a dû s'y faire avec ce nouveau quotidien. Donc, on les a transformés donc en e-goûter, en e-café et en activité de team building donc à distance, des outils brise-glace pour lors des débuts de réunion et également des prises de température régulières donc qu'on a adaptées, qu'on envoie donc par exemple par des sondages, des entretiens annuels, des rétrospectives. Donc, nos délits d'équipe, c'est donc les goûter, ça se fait de la manière suivante. On a des e-cafés, donc le matin, des équipes qui se réunissent pour faire des e-cafés. L'après-midi, d'autres le font l'après-midi avec des e-goûters. Et des sessions de team building, comme je l'ai évoqué. Donc, c'est des sessions, on va faire des jeux en ligne. Je dis on parce que j'anime ces sessions d'activité en ligne. Donc, on va faire des jeux en ligne, on va faire des blind tests, on va faire des jeux de culture G. Donc, c'est des moments qui nous permettent d'être ensemble et de créer une certaine cohésion d'équipe. Donc, moi, je suis amenée à intervenir dans plusieurs équipes avec des gens que, ben forcément, avant, je ne parlais pas forcément au quotidien parce que je ne travaillais pas avec eux. Donc, du coup, en faisant ces réunions d'équipe, ça nous permet de nous retrouver et à eux de passer un moment et d'oublier le travail. Nous avons également renforcé notre processus d'intégration, donc en faisant des suivis un peu plus réguliers. Donc nous avons intégré des collaborateurs, par exemple, pendant le confinement. Donc ça a été une première. Nous avons embauché une première personne en mars et là elle vient de fêter ses 1 an chez nous. Donc super content, une intégration qui s'est super bien passée pendant toute la durée du confinement du coup. Nous avons aussi des scrums hebdomadaires. Donc en fait c'est une réunion qu'on avait aussi précédemment tous les vendredis. On le faisait en physique, tous les salariés étaient invités à y participer et malheureusement, depuis la pandémie, on le fait en visio. Pareil, tous les salariés sont amenés à participer. Donc, c'est une réunion qui se base sur un moment d'échange et de transparence, donc au niveau de la communication de la part de la direction. Et il y a aussi des collaborateurs des différentes équipes qui interviennent pour présenter les résultats de leur BU. Et nous avons également des intervenants extérieurs qui peuvent venir nous partager leur expérience de professionnelle. On y présente les nouveaux, on y fête les anniversaires, les départs, etc. Voilà, donc on est plus sur une notion de partage d'informations et notamment de transparence. Voilà ce que je peux dire, ce qu'on a pu mettre en place pendant cette crise afin de pas laisser tomber nos salariés et de garder cette cohésion qu'on a.
Et retrouver un petit peu de convivialité perdue.
Exactement.
Je vous cède la parole, Léopold.
Alors, je vais être très rapide parce que je vois l'heure qui
Tout à
passe.
fait.
Déjà, je rejoins complètement Katia sur l'importance des moments informels. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude, mais enfin, quand on était au bureau, on avait 1 heure et demie de temps informel par jour avec les uns et les autres. Alors, en plus du fait que c'est fort sympathique, ce sont des moments qui sont primordiaux en termes de prévention. Parce que c'est ce genre de moments qu'on identifie des signaux faibles chez un collègue, chez un membre de son équipe, etc. Et coupé de cela, en fait, c'est le salarié qui est beaucoup plus responsable de la prévention des risques psychosociaux. Parce qu'il doit être en capacité de faire de l'introspection sur lui-même, comprendre sa situation au fur et à mesure, ce qui est pas facile du tout. Et donc, ces moments informels, ils permettent de recréer du lien avec ses collègues, avec son manager, et donc d'avoir ces moments informels qui sont propices à la prévention. Ensuite, moi, ce que j'ajouterais sur cet aspect qualité de vie au travail pendant la crise, que je ressouligne, c'est l'importance d'outiller ses salariés. On est tous, quand on est en télétravail, au fur et à mesure de l'année, on s'est retrouvé avec des nouveaux outils. Un meilleur zoom, un meilleur espace de travail, etc. Et bien en fait, pour moi, l'accompagnement à la qualité de vie au travail doit faire partie de ces outils parce que le salarié est un petit peu livré à lui-même et donc tout ce qu'il avait auparavant dans son bureau, dans son entourage, etc., il doit le retrouver dans ses outils. Pour moi, l'entreprise doit investir là-dessus. Et d'ailleurs, l'année dernière, nous, on organise des conférences en ligne pour les salariés de nos entreprises clientes. On a eu un boom sur l'utilisation, parce qu'on sent que les salariés sont beaucoup plus sensibles individuellement aux thématiques de qualité de vie au travail, parce que tout simplement, ils ont été confrontés à des sujets face auxquels ils étaient seuls. Et donc, nous, l'année dernière, on a eu plus de 24 000 personnes qui ont participé à des conférences en ligne sur des sujets, comment collaborer à distance, comment gérer mon stress, comment gérer la parentalité pendant la crise, etc. Donc, ce sont des sujets qui sont très importants aujourd'hui.
Merci beaucoup. Oui, effectivement, oui, les webconférences sur ces sujets ont toutes eu un succès. On avait eu l'occasion d'en faire sur les RPS et sur le management à distance. Et ces deux webconférences avaient eu vraiment énormément de succès. Voilà, donc j'espère que ce format vous aura plu et que vous avez obtenu donc réponse à toutes vos questions. Donc je vous le rappelle, n'hésitez pas à contacter Maître Bergeau et Léopold de Denis, dont vous avez donc les coordonnées à l'écran. J'invite également les élus à nous rejoindre dans nos deux groupes privés sur Facebook ou sur LinkedIn où nous pourrons continuer les échanges. Ma collègue est en train de vous transmettre les liens vers les groupes sur le chat. Et je vous donne également rendez-vous à notre prochaine webconférence sur un thème radicalement différent, mais qui nous a été demandé par certains d'entre vous, revenir sur l'activité partielle de longue durée. Donc, cette webconférence aura lieu le jeudi 8 avril à 14 h. Donc, il me reste à remercier nos intervenants. Donc, merci encore, Maître Bergeau.
Merci à vous,
Merci,
Myriam. Merci.
Léopold. Merci, Katia, d'avoir
Merci
accepté
beaucoup.
d'animer cette
Merci.
webconférence avec moi. Et je vous laisse donc dire au revoir également à nos internautes.
Bon après-midi
revoir,
à
merci
tous.
beaucoup.
Au revoir.
Bon
Bon après-midi à
après-midi.
tous.
Au revoir, à
Au
bientôt.
revoir et à bientôt.